présente Les pervers narcissiques. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Comment leur échapper? De Jean-Charles Bouchou, lu par Xavier Percy. À mes enfants, Jean-Baptiste, Alexandre et Édouard, à tous les êtres sensibles, puissent-ils trouver les chemins du bonheur et croire en l'égalité de tous les êtres. À toi, évidemment. Pourquoi suis-je si triste? Sur la rive du Rhin, au soleil couchant, l'air fraîchit. Une merveilleuse jeune fille est assise là-haut, sur le rocher. Elle peigne ses cheveux d'or et chante une étrange mélodie. Le batelier dans sa barque est pris d'une étrange douleur violente. Il ne voit plus les récifs. À la fin, je crois, les flots l'engloutissent. Voilà ce qu'ont fait la Lorelei et son chant. Heinrich Heine, 1823. Introduction. Qui est le pervers narcissique? Après la première édition de ce livre, qui a connu un succès étonnant, j'ai reçu nombre de témoignages et de questions. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que mon travail soit complété par une nouvelle édition dans laquelle je relate quelques-uns de ces témoignages qui permettront une meilleure compréhension de son sujet. Le pervers narcissique structurellement accompli utilise le lien familial, professionnel ou amoureux pour assujettir l'autre. Il a besoin de cette proximité pour exercer son emprise et ne permettra pas à sa victime de prendre de la distance. Il est froid intérieurement, ne connaît pas la culpabilité et n'hésite pas à culpabiliser les autres. Ses valeurs, ses sentiments et son comportement changent en fonction des gens et du contexte qui l'entoure. Extérieurement, il est aimable et peut feindre la compassion et la sympathie. Il est séducteur et, si nécessaire, peut être ponctuellement très serviable, surtout si cela lui permet d'atteindre ses objectifs. Bien souvent, aux dépens des autres. Il ne prend jamais en compte les besoins et les sentiments des autres, sauf pour s'en servir, manipuler sa victime, l'isoler et l'amener à faire ce qu'il veut. Il est égocentrique, exige de l'autre la perfection. C'est aussi un menteur. Généralement habile avec la parole, il se sert largement du double sens des mots pour manipuler, se positionner en victime pour se faire plaindre ou rendre l'autre volontairement mal à l'aise. Même s'il n'a aucune valeur propre, il utilise la morale et les valeurs des autres pour arriver à ses fins. Il peut mettre en avant des raisons apparemment très logiques pour justifier ses passages à l'acte. Il peut être jaloux et infidèle. Il ne supporte pas la critique, mais critique sans cesse. Pour se revaloriser, il se nourrit de l'image de sa victime. Plus il la dévalorise, plus il se sent fort. Qu'il ressente une angoisse et, rapidement, cette angoisse habite l'autre. Par des mécanismes que nous allons étudier, il fait porter aux autres ce qui devrait être sa rage, ses peurs et sa culpabilité. Autant dire sa folie. Or, si le pervers narcissique accompli existe, il faut savoir que nous sommes tous amenés à utiliser, à certains moments, des mécanismes pervers narcissiques. Aussi, plus qu'un essai sur le pervers narcissique, cet ouvrage tente de présenter une cartographie des mécanismes et des origines de la perversion mentale. Il se propose d'esquisser la limite entre normalité et perversion. À ce sujet, les personnages de Don Juan et Casanova, par exemple, sont bien difficiles à situer. Don Juan séduit des femmes et leur donne des rendez-vous auxquels il ne se rend pas, mais envoie son valet Sganarelle vérifier qu'elles sont bienvenues. Si c'est le cas, il est satisfait. Quant à Casanova, il séduit des femmes, se rend, lui, au rendez-vous, consomme, puis disparaît. L'un comme l'autre se défendent d'une angoisse liée à l'idée qu'ils se font de leur pouvoir. Don Juan vérifie le pouvoir de son image et Casanova s'assure qu'il n'est pas castré. Nous pourrions donc voir en Casanova un pervers sexuel et en Don Juan un pervers narcissique. Toutefois, les deux s'enfuient après avoir séduit car une relation amoureuse les mettrait trop en danger. Le pervers narcissique, tel que nous allons l'étudier, séduit sa proie à l'instar de Don Juan, mais la conserve ensuite et cherche à détruire l'image de sa victime. Il s'en nourrit et projette sur elle sa propre folie. Il assujettit son souffre-douleur et le pousse à la dépression, à la violence, à la perversion, à la folie, à la maladie, voire, dans les cas les plus graves, à la mort par suicide ou par accident. Tout au long de cet ouvrage, nous rencontrerons différents personnages qui nous montreront qu'il est parfois bien difficile de faire un diagnostic précis. Nous observerons le cas de Vanessa depuis sa petite enfance et nous la verrons, telle la Lorelai du poème cité en exergue de ce livre, devenir une sirène séductrice prenant plaisir à voir les marins s'écraser sur ses récifs. Le lecteur qui le souhaite pourra tenter une étude de ce cas en répondant à quelques questions. Des réponses non exhaustives seront proposées à la fin de cet ouvrage. Nous verrons aussi le cas de Franck, qui prend tant de plaisir à critiquer et dévaloriser sa femme, à la traiter de perverse pour oublier qu'il s'est senti trahi dans son enfance. Et le cas de Jean-Pierre, le chef d'entreprise, qui se valorise aux dépens de ses salariés. Nous nous intéresserons aussi au cas de Pierrette, qui met en place des mécanismes pervers narcissiques pour sortir de son chaos, puis qui, ensuite, à la différence du pervers structurellement accompli, éprouve des angoisses d'abandon qui la font replonger. Son parcours sera complété par le long témoignage de Jacques, compagnon de Pierrette, qui, après avoir vécu 2 ans aux côtés de son ami malade, se remet totalement en question. Là encore, le lecteur qui en a le désir pourra essayer d'y retrouver tous les mécanismes exposés au cours de cet ouvrage. Enfin, nous rencontrerons des parents pervers n'hésitant pas à sacrifier la santé mentale de leurs enfants pour leur seul confort. Un peu d'histoire. Paul-Claude Racamier, psychanalyste français, a inventé le concept de pervers narcissique dans les années 1950. À l'époque, il travaille sur la psychose et notamment la schizophrénie. Pour lui, le schizophrène vit avec frayeur ses conflits internes qu'il s'empresse d'éjecter chez l'autre. Dans son livre « Le génie des origines », Paul-Claude Racamier, parlant du pervers, explique « Ce sont des noyauteurs pour qui tout est bon pour attaquer le plaisir de penser et la créativité. Pour le pervers narcissique, domine le besoin, la capacité et le plaisir de se mettre à l'abri des conflits internes et en particulier du deuil en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé comme un ustensile et un faire-valoir. » C'est aussi en travaillant sur la schizophrénie qu'Harold Searles met en avant l'interaction des processus inconscients entre le psychotique et son thérapeute. Dans son livre « L'effort pour rendre l'autre fou », Harold Searles rapporte « Rendre l'autre fou est dans le pouvoir de chacun, qu'il ne puisse pas exister pour son propre compte, penser, sentir, désirer en se souvenant de lui-même et de ce qui lui revient en propre. » La perversion narcissique serait un moyen pour le sujet de ne pas délirer, de faire porter à l'autre son chaos et de ne pas entrer en psychose. Mais c'est la Française Marie-France Irigoyen, médecin psychiatre et également psychanalyste, qui popularise le terme de perversion narcissique dans son ouvrage « Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien ». Elle définit le harcèlement moral, mécanisme typique du pervers narcissique, comme « toute conduite abusive qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne, mettant en péril l'emploi de celle-ci ou dégradant le climat social.